savez, nous venons dans notre adoration du Seigneur au sommet de la montagne de l'adoration. C'est-à-dire, il est merveilleux, il est attendu que les saints louent le Seigneur, qui parlent au Seigneur. Ce qui est le plus important, c'est que le Seigneur nous parle. Et Dieu a institué que la parole de Dieu soit prêchée par des mots, par la communication verbale, par une explication, amplification, illustrée. La parole de Dieu, ce que nous cherchons à faire aussi fidèlement que possible à chaque fois qu'on se réunit ensemble. On prie, on chante, on loue, tout cela c'est merveilleux et tout cela devrait nous préparer pour le sommet de la montagne, pour ouvrir les Saintes Écritures et voir Dieu dedans. Il ne se voit pas clairement par aucun autre moyen. Il se manifeste dans la nature, mais on ne sait pas comment il est en caractère. On sait qu'il est omniprésent. Pardon, on sait qu'il est omnipotent. Il est surtout plus potent que nous. Et nous sait qu'il fait des choses de la beauté, mais nous voyons aussi autre chose qui ne sont pas très beaux. Et nous voyons les tremblements de terre et nous voyons le chaos dans le monde causé par l'homme et causé par ce que nous disons la nature. On assume si Dieu existe que c'est sa faute donc. Et on présuppose beaucoup de choses qui ne sont jamais claires à moins que la parole verbale s'exprime et Dieu, dans sa grande infinie sagesse, nous a donné un livre. C'est pas trop épais. Vous pouvez écouter sur Internet la lecture de la parole au bout de 80 heures. Il aurait terminé depuis Genèse jusqu'à fin d'Apocalypse, donc c'est pas si grand. Et tout ce que Dieu s'est révélé de lui-même et de sa propre volonté se voit dans la parole de Dieu. Enfin, ça c'est évident dans le passage où nous revenons après quelques semaines, deux semaines je crois, il y a deux semaines, nous étions au fur et à mesure que nous continuons passage par passage dans le 13e livre de Actes des Apôtres. Et nous avons terminé par le 30e verset. Rappelez-vous que l'apôtre Paul s'exprime pour la première fois dans un message. Enfin, pas pour lui personnellement, mais ce qui est rapporté pour la première fois, Paul donne un serment, le premier serment. Que Paul va prêcher bien avant que aucun de ses livres, ses épîtres, ont été écrits. Et je vous rappelle que Paul a été, il avait un but, il avait un agenda. Quand Paul, en verset 17, se lève devant les mondes, il va, dans la première partie de ce message, il va parler sur deux choses. Enfin, il va parler sur plusieurs choses, mais deux grands thèmes sortent. Et ça, c'est qu'il y a une direction dans l'histoire, que l'histoire s'avance vers un but prédéterminé et intentionné. Et deuxièmement, que l'auteur de cette histoire, c'est Dieu. C'est-à-dire, Dieu est l'acteur principal dans les événements de l'histoire. Nous avons noté, et j'espère que la dernière fois, vous aviez un stylo avec vous et que vous avez souligné les verbes Je crois qu'il y en avait 16. Je peux le compter parce que je l'ai fait. C'est une bonne chose à faire. Et chaque fois maintenant que je ouvre Actes chapitre 13 à partir du verset 16, je vois 16 verbes qui me sautent entre les yeux de l'activité de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne un résumé historique de ce qui s'est arrivé à la nation Israël. Mais il dit, Dieu vous a choisi, verset 17. Dieu vous a mis en honneur, verset toujours 17. Et vous a fait sortir du pays d'Égypte. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu vous a nourri pendant 40 ans dans le désert. Dieu a détruit, verset 19, 7 nations devant vous. Dieu vous a accordé le territoire promis. Dieu, verset 20, vous a donné des juges pour vous diriger dans la bonne voie. Dieu vous a donné votre premier roi qui s'appelle Saül. Dieu l'a mis, et puis quand il avait fini avec lui, il a fait baisser et descendre, et verset 22, puis il leur suscita pour roi David. Et qu'est-ce que David faisait? David faisait, accomplissait, fin du verset 22, toutes mes volontés. Clair, n'est-ce pas? L'acteur principal, ce n'est pas l'homme, c'est Dieu. Enfin, plus que je lis la Bible, plus que ça devient évident dans mon culte personnel, avec cette connaissance dans ma tête, ça ouvre plein de portes dans la lecture parce que verbe après verbe, à travers toute la Bible, c'est Dieu qui agit. Même dans des catastrophes, même dans le péché de rébellion contre lui, Dieu est l'acteur principal. Et qu'il prend chaque événement dans le fleuve son destin pour amener tout vers un but intentionné, prédéterminé par l'acteur principal. Et c'est ça ce que Paul est en train de souligner. Vous rappelez que Paul avait commencé à Antioche, l'église à Antioche a envoyé Paul et Barnabas avec Jean-Marc. Ici, ils avaient passé des mois évangélisant Chypre. Jean-Marc en avait assez, il est rentré et retourné à Jérusalem, chez lui. Mais Paul et Barnabas sont partis vers ce qui est aujourd'hui le sud de Turquie. Très, très, très montagneux, très dangereux par la nature. Et Luc n'en parle pas du tout des dangers qui étaient devant eux. Ils sont montés à une autre Antioche. Attends, il y en avait plusieurs. Après Antiochus, un grand empereur, Antioche de Pisidie. Et là, ils entrent dans la synagogue, parce que les Juifs étaient dispersés partout. Que faisaient-ils? Ils ne faisaient pas des temples, il n'y avait qu'un seul temple à Jérusalem, mais ils faisaient des synagogues, des lieux de rencontre pour des Juifs. Et Paul commençait toujours chez eux. Il est juif, il est rabbi certifié, il avait même les vêtements qui prouvaient qu'il était ça, et donc quand il entrait dans un synagogue, il s'assoyait discrètement. Des leaders, normalement, s'il y avait un visiteur, surtout un rabbin, enfin, il invitait de donner un speech ou de donner une exhortation. C'était le cas. Et ça, nous avons lu cela en verset, 14 ou 15. Après la lecture de la loi et la prophète, les chefs du synagogue voyaient Paul et Barnabas et leur dit, « Homme, frère, si vous avez une exhortation adressée au peuple, venez et parlez. » Et verset 16, Paul se leva, et ayant fait signe de sa main, il commence. par les versets que nous venons de dire, de lire. Paul, donc, va, et donc je les mets tous ensemble parce que je... Je ne peux pas mettre une après l'autre, mais ici on a plus ou moins le plan de ce que Paul va dire. Il va insister à partir du verset 17 et 22 que nous venons de voir, que l'histoire de Israël est préparatoire de Jésus, mais il n'a pas encore mentionné Jésus. Il prépare pour qu'ils écoutent ça. Qu'est-ce qu'il disait? Tout ce qu'il disait, que nous venons de lire, ils savaient déjà, ils étaient entièrement d'accord, et il n'y avait aucune chose controverse de ce que Paul avait dit. C'était assez normal de donner une petite récapitulation de leur pays. Et donc, Paul parlait de ceux qui savaient, les gens disaient oui, 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 ils reconnaissaient que ce n'était pas eux, ils reconnaissaient que c'était Dieu, il y avait plein de amen, amen, amen. Et puis, dans la deuxième partie, Paul va dire Jésus est l'accomplissement de cette histoire. Vous ne le saviez pas, et les chefs religieux ne savaient pas. Ils savaient que l'histoire allait quelque part, mais ils n'avaient aucune idée que ça allait où ça allait. Aucune idée. Et donc, dans notre texte, quand il arrive à verset 23, Paul va dire ceci. Il commence par Égypte. Il aille vers David, et puis il dit, c'est de la postérité de David que Dieu, si vous regardez verset 23, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur. D'accord? Tout le monde est d'accord. Qui est? Pas de amen, parce que tout le monde attend le prochain mot. Qu'est-ce qu'il va dire? Et puis, la bombe tombe. Jésus. Mais vous savez, dans ce synagogue, il y avait deux groupes de personnes. Il y avait les juifs qui étaient devant, et il y avait ceux qui craignaient Dieu qui étaient derrière. Et c'est pour cela que Paul, en verset 16, dit... Hommes israélites, et aussi vous qui craignez Dieu, écoutez. Alors, eux, ils écoutaient très bien. Pourquoi? Parce que ils étaient permis des gens qui ont passé à travers certains rites, mais ils n'étaient pas formellement devenus juifs. Ils étaient permis d'entrer dans les synagogues. Rappelez-vous, ce n'est pas le temple. Le temple, pas du tout. Mais les synagogues, les lieux de rencontre, si, ils avaient rejeté leur paganisme et leurs idoles, et maintenant ils adoraient le vrai Dieu, Jéhovah, mais quand même, ils étaient peut-être même circoncis, mais quand même ils n'étaient pas encore juifs, considérés à 100% comme nous, donc ils se mettaient derrière, ils étaient permis. C'était déjà quelque chose. Ils n'ont jamais été adressés. On n'a parlé jamais d'eux. Mais ils étaient permis d'entendre les bénédictions que Dieu avait faites envers la nation choisie par Dieu. Mais Paul adresse ces personnes. Et quand il arrive à verset 26, il va dire encore, « Homme, frère, race, fils, de la race d'Abraham, et vous aussi, vous qui craignez Dieu. » Il regarde ici quand il parlait des hommes et des frères, il regardait là-bas quand il parlait de ceux qui craignaient Dieu. Ils étaient appelés ça en plusieurs endroits à travers le livre de Actes. Ces deux groupes de personnes constamment présents, parce que l'un était les vrais peuples de Dieu, l'autre favorisait le Dieu et adorait le Dieu, priait le Dieu, comme Corneille par exemple, mais qui n'était pas juif, et donc Pierre n'était pas permis, par sa tradition, d'entrer dans sa maison. je dis tradition, ce n'était pas dans la parole de Dieu. Mais au fur et à mesure, ils avaient amassé des traditions pour essayer de protéger ce qu'ils voyaient comme la vérité. Et les traditions, et ce sont devenues la vérité. La vérité est oubliée. Les traditions, maintenant renommées vérité, sont gardées. Oh, comme c'est très facile de vivre comme ça et de réfléchir inconsciemment de cette manière. Et ça, c'était ce qui s'était passé. Et puis, à partir de verset 26, on va le dire. Homme prêt à écouter. Non, parce qu'on n'a pas, on va commencer à verset 23. C'est de la postérité de David que selon sa promesse, attention, il a promis, il a suscité d'Israël un sauveur qui est Jésus. Hein? Attention, avant sa venue, il y avait Jean. Qui est Jean? Prophète. Jean était le dernier des prophètes de l'ancienne alliance. Il habitait dans le Nouveau Testament. Pour nous, on dit non, il est dans le Nouveau Testament. Si, mais la nouvelle alliance n'est pas encore été inaugurée à la Pâque, au dernier repas de Jésus, qui était le premier repas des chrétiens. Ça n'avait pas été le cas. Donc, Jean-Baptiste prophétisait comme les autres, mais différemment. Les autres apôtres, prophètes, et j'ai marqué comme ceci, tous les prophètes convergent, ou ils s'accordent. Paul va dire, tous les prophètes sont d'accord, et ils convergent tous pour Jésus, pour être dans ce courant de l'histoire qui va terminer par une personne qui s'appelle Jésus. Et, mais attention, avant que Jésus venu, juste avant, Jean-Baptiste s'est apparu. Et Jean-Baptiste n'a pas dit comme les autres prophètes. Dans le futur, Jean-Baptiste va dire, il est arrivé. Avant sa venue, verset 24, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Et lorsque Jean avait achevé sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier ses souliers. Et un jour, quelques jours plus tard, dans les évangiles, nous allons lire, Jean va dire, c'est lui. Regarde, non pas lui, cet homme-là, c'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui est venu comme promis par tous les prophètes, comme l'achèvement de toutes les prophéties dans l'Ancien Testament. C'est lui. Et il est l'agneau qui est venu pour quoi? Pour ôter les péchés du monde. Le poids de cette phrase pour ôter le péché du monde. Ô homme, frère, verset 26 dans vos Bibles, fils de la race d'Abraham, et vous aussi qui craignez Dieu, c'est à vous. Ah, il dit, pas seulement vous les juifs, mais vous aussi qui craignez Dieu, qui n'êtes pas juifs. Vous qui craignez Dieu, c'est à vous que cette parole du salut a été envoyée. Parce que les habitants de Jérusalem, ainsi que leurs chefs, ont méconnu Jésus. Ils l'ont condamné. Mais ils ont terminé par accomplir les paroles des prophètes, qui se lisent chaque sabbat, comme vous le faites ici. Oui, je suis un visiteur qui vient de loin, et je ne serai peut-être plus ici, mais je sais ce que vous lisez. Parce que je suis juif, je suis rabbi en plus, et je sais que vous lisez les prophètes, et vous savez que vous avez envie de voir l'accomplissement de leurs prophéties, mais là, c'est juste comme présent, il semble de ne pas avoir pour vous. Je suis ici aujourd'hui pour dire, non simplement pour vous les juifs, mais pour vous qui craignez Dieu aussi, l'accomplissement est arrivé. Mais vous, chefs l'ont méconnu, Et verset 28, quoiqu'il n'ait trouvé en lui aucun mal, aucune raison de mort, ils ont demandé à Pilate quand même de lui faire mourir. Ils ont demandé en faveur. C'est un peu comme, ils disent, oui, Pilate, d'accord, tu dis, je vois aucune faute, disait Pilate. Oui, d'accord, mais quand même, tu nous donnes quand même en faveur chaque année. On demande pourtant que tu tues cet homme. Il a terminé par faire ce qu'ils ont voulu parce qu'il avait peur de ne pas pouvoir le contrôler après. Verset 29. Et après qu'ils eurent accompli encore tout ce qui est écrit de lui, ils le descendirent de la croix. Ils le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. C'est là où nous avons terminé la dernière fois. Maintenant, il arrive à la raison d'être de ce message. Dieu, ce Jésus, descendit de la croix et ressuscité des morts. Je parle à vous les Juifs, je parle à vous qui craignez Dieu, mais qui ne sont pas Juifs. Il est apparu pendant plusieurs jours, 40, nous savons, à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée et à Jérusalem, et qui sont maintenant des témoins auprès de du peuple. 500 personnes à dans une seule fois. Et la plupart de ces gens continuent à vivre. Allez leur demander, leur témoignage est crédible. Ils l'ont vu, ils n'ont pas suivi les raisonnements, les philosophies mystiques d'un gourou quelque part, et ses principes psychologiques. Non, c'est historique. La foi chrétienne est basée sur des faits dans l'histoire, des personnages connus. Rien n'a été fait dans un coin caché. Tout a été fait devant tout le monde, documentable. Ce que dit Paul. Et verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle, que la promesse faite à nos pères converge ensemble. Dieu l'a accompli pour nous, pour qui sont leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon qu'il est écrit dans le psaume 2. Qu'est-ce qu'il est écrit dans le psaume 2? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça ne parle pas de sa naissance dans son incarnation à Bethléem, ça parle de sa revivre après la résurrection. C'est un verset qui parle directement de la résurrection de Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul, comme l'apôtre Pierre avait déjà fait, prend ce verset comme preuve que l'Ancien Testament a été accompli dans la résurrection de Jésus-Christ. Qu'il a ressuscité, verset 34, des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré quand il a dit, ouvrez les guillemets de l'Ancien Testament, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces sont assurées. C'est pourquoi, fermez les guillemets, c'est pourquoi il dit encore, ouvrez les guillemets, tu ne permettras pas, c'est David qui parle, tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Or, David, 36, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, qui c'est qui commande? Dieu, il est mort. Il a été réuni à ses pères, comme ses pères, et leurs pères. Il a vu la corruption. Donc, David ne parle pas de lui-même, comme disaient les Juifs. Parce que David dit, il n'y a pas de corruption de son corps. Mais David s'est corrompu, son corps. Mais celui que Dieu l'a ressuscité n'a pas vu la corruption. 38. Maintenant, on vient au grand sujet, au cœur, où nous voulons passer les dernières minutes ensemble. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez pas être justifié par la loi de Moïse. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël, pendant 2000 ans, continue à vivre, à souffrir, à être presque anéanti, mais il y avait toujours un reste qui revient. Dieu est en train de mener son propre agenda vers un but. On comprend maintenant que Jésus, c'est l'accomplissement dans l'histoire de ce but. Et on comprend, en regardant en arrière, c'est pour cela que je vous conseille, si vous n'avez pas lu la Bible, commencez avec le Nouveau Testament, avec le fruit de l'arbre, plutôt que la racine de l'arbre. Vous avez l'avantage. Vous avez la pomme. Mangez-y avec la torche du fruit, rentrez vers la racine. Maintenant, parce que c'est le présent qui interprète le passé, très souvent, n'est-ce pas? Oh, si j'avais su ça! Combien de fois vous avez dit ça? En fin de compte, j'aurais dû. D'autres fois, je n'aurais pas pu. Si j'avais su ça, j'aurais agi autrement. Mais maintenant, c'est clair. Oui, mais c'est trop tard. Mais nous pouvons prendre le fruit de la nouvelle alliance pour regarder vers, avec cette torche de l'ancienne alliance, et qu'est-ce qu'on découvre? Que tous les prophètes s'accordent pour converger sur cette personne Jésus-Christ. Maintenant, je comprends pourquoi Satan faisait de son mieux de couper Jésus. Pour que juste quand la racine arrive au fruit, il n'y aura plus de fruit. Il a coupé le haut de l'arbre. C'est ce qu'il cherchait à faire. C'est que humainement, il a presque réussi à faire. Si tout dépendait sur des astuces humaines, comme nous voyons. Mais non, c'est pas Satan qui dirige l'histoire. Ça semble être le cas. Ou ça semble être un rien. Parce que chaos, c'est chaos. C'est pas Dieu. Dans notre petite intelligence. Et notre capacité de voir les choses. Mais non! Nous savons que tous arrivent à Jésus pour arriver au but de l'histoire que nous venons de lire. Ô homme, frère, pas simplement vous les Juifs, mais vous qui craignez aussi Dieu, c'est par Jésus que le pardon du péché est annoncé. Vous savez, les Juifs faisaient des sacrifices constamment. Regardez, il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et d'une manière, il le savait. Il péchait tous les matins, tous les soirs. Des sacrifices sont offerts. Des boucs sont égorgés tous les matins, tous les soirs. 365 fois par an. Sauf les journées où il y en avait beaucoup plus, mais jamais moins. Les péchés ont été couverts et les gens savaient. Et puis les sacrifices annuels, la Bible dit, se rappelaient des sacrifices quotidiens. Ils savaient, Dieu se rappelle de ça. D'accord, il pardonne provisoirement. Mais il ne sortait jamais avec la joie, « Ah, je suis pardonné !» de mes iniquités. Le joie d'avoir l'enlèvement du poids du péché est une joie incomparable dans que ce soit dans le monde. Mais c'est pas possible que le sang des taureaux et des boucs ôte des péchés. Mais regardez ce verset imprégné de sens. Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ah, une nouvelle accord. Pourquoi? Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ah! Qu'est-ce que l'apôtre est en train de découvrir devant nos yeux? le péché des gens dans l'Ancien Testament s'empilait l'un sur l'autre, rien n'est pardonné. Couvert provisoirement, mais pas pardonné. Chaque juif rentrait pas satisfait. Il y a quelque chose qui dit, j'ai fait ce que je voulais faire, et momentanément, mon péché est couvert, mais je ne me ressente pas très très propre. Il vivait toute sa vie, il mourait avec ce sentiment de culpabilité qu'il avait. Jésus-Christ est venu. Qu'est-ce qu'il fait? Il est venu afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises dans la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Si Jésus n'était pas venu, on voit c'est le tronc et quelques branches, mais on a l'impression cet arbre n'a pas été fait. On voit une fondation et quelques murs, mais on a l'impression ce bâtiment n'a pas été fini. On voit le commencement en illustration de plein de choses, mais clairement pas achevé, pas accompli. Et donc, le pardon est quelque chose que tout le monde craignait et qui cherchait et qui voulait. Et nous avons pas mal de versets le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Il y a pas mal de versets à travers tout l'Ancien Testament, et j'ai dû choisir juste plusieurs simplement pour avoir une petite accumulation de versets. C'était que le pardon était quelque chose qui était très 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 voulu et très compris, mais toujours pas réalisé, toujours futur. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je vous laisse réfléchir sur ça, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. J'efface tes transgressions comme un nuage, et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Et merveilleux comme dans l'Ancien Testament, Dieu parle comme si c'était quelque chose qui était dans le futur et dans le passé. Michée, quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés? Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Et le psalmiste, dans le passage qui est peut-être le plus connu, heureux celui qui a la transgression, à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité. Et l'apôtre Paul va répéter David 1000 ans plus tard pour dire, de même David exprime, dit Paul ici, le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sont les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnés et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Et l'on arrive à notre texte. Sachez donc, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est enfin annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Hier, dans notre séminaire Institut biblique, pendant 4 heures, nous avons fait pas mal du temps pour voir ce que la Bible enseigne et pourquoi la logique dernière, la logique biblique et la logique mentale dernière, cette idée de justification, qui c'est qui peut être justifié?
Enfin, on a le mot pardon, on a le mot justification. Quelle est la différence entre les deux? Ils sont utilisés parfois interchangeablement dans la Bible, mais dans un sens, il y a ces deux côtés de la même pièce. Pardonner. Un psychiatre peut vous dire si on pourrait juste trouver un moyen d'enlever des sentiments de culpabilité dans les gens qui arrivent pour une visite psychiatrique, si on pourrait trouver une solution, une fois pour toutes, d'enlever le sentiment de culpabilité, on perdrait la plupart de nos clients. Parce que la plupart de gens, une bonne pourcentage, je ne connais pas, je ne sais pas si il y a des statistiques, mais il y en a qui ont fait des sondages. Une très grand pourcentage de gens dans des hôpitaux psychiatriques sont là parce qu'ils n'en peuvent plus, ils se sentent coupables. Ils avaient fait toutes différentes choses pour qu'ils se libèrent. Et le psychiatre avait fait plein de choses pour qu'ils se libèrent. Ils avaient utilisé des distractions. Allez-y, faire la fête. Allez dans la campagne, regardez les montagnes et ça semble de apaiser pendant un certain temps, ou juste le fait de nier, de refuser, de ignorer carrément, ou de blâmer, c'est pas ma faute, se justifier par mettre la blâme sur quelqu'un d'autre, ou par mettre la blâme sur nos circonstances. Oui, j'aurais pas dû faire ça, mais écoute, j'étais malade, j'étais pas bien. J'étais très vulnérable, donc je suis tombé. On cherche de notre mieux de minimiser au maximum notre faute et de maximiser, si ça m'en existe, la blâme des circonstances ou des autres personnes. C'est inné dans notre nature. Déchu, de mettre la blâme sur quelqu'un d'autre, de se justifier à chaque fois. Heureux l'homme dont ses transgressions sont pardonnées. Quelqu'un dit, il n'y a qu'un seul péché qui n'est pas pardonné, et ça c'est le péché non confessé. Et ça c'est vrai. Il n'y a aucun péché où celui qui se repente de ses péchés et confesse, et le mot confesser est un mot qui à la racine veut dire la même chose. Dieu dit, je te vois comme ça, et tu dis, je m'arrête de m'excuser, je me mets à côté de toi comme juge sur moi, tu me vois jusqu'au bout, j'accepte ce que tu dis sur ce que j'ai fait, et je ne donne plus de justificatif. Je ne donne plus d'excuses. Et celui qui est pardonné de ses péchés, et Dieu dit, il n'y a aucun péché qui est trop grand, où le péché abonde, la grâce surabonde pour ceux qui confessent à Dieu leurs péchés. À cause de ça, toute l'histoire converge dans la personne de Jésus-Christ. Et nous lisons, sachez donc, frères, c'est par lui que le pardon de péché est, vous est annoncé, et que quiconque est justifié par tout, et que quiconque croit est justifié par lui. Hier, on avait discuté le fait que la loi condamne. La loi est capable de faire deux choses. La loi n'aime pas. La loi n'est pas miséricordieuse. La loi ne gracie personne. La loi justifie ou la loi condamne. C'est tout. La loi expose la réalité de votre situation, et si la loi vous voit innocent,
vous êtes innocenté.
J'aime ça, en français on a un verbe, en anglais on n'a pas. Mais vous êtes innocenté à condition que vous êtes innocent. Vous êtes justifié à condition que vous êtes juste. Vous êtes pardonné sans être justifié, qui tout seul ne serait pas suffisant pour que vous alliez au ciel. C'est pour cela que je dis, c'est les deux choses de la même côté. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre, mais on ne peut pas avoir seulement un et être au ciel. Il faut être pardonné de nos péchés. On peut pardonner un criminel, mais on ne peut pas justifier un criminel. Comment donc le grand énigme de l'apôtre Paul qui révèle dans le livre de Romains, comment un Dieu juste peut-il justifier un injuste tout en restant juste? Vous avez entendu toutes ces justes? Comment un Dieu juste peut-il justifier un injuste tout en restant juste lui-même? Si dans le cours suprême, un criminel arrive et ils sont des copains, un copain avec deux juges, et le juge termine par faire ce que tout le monde savent. Tout le monde savent que cette personne n'est pas innocente, mais le juge termine par justifier, c'est-à-dire déclarer juste. Qu'est-ce que les autres personnes vont penser de ce juge? C'est un très mauvais juge, c'est un juge injuste. C'est un juge qui ne mérite pas porter sentence sur une personne. C'est un juge qui devrait être enlevé de son poste. Et comment ça se fait, chers amis? Vous êtes coupable. Il n'y a aucune personne ici qui n'est pas coupable. Le monde a un poids de culpabilité qui porte sur eux jour après jour après jour, qui cherche par mille moyens de n'en pas penser. Mais cette culpabilité reste quand même. Christ est venu. C'est la fin de la loi. Pour enlever la culpabilité d'une manière légale. Un pardon juridique qui est offert à celui dont la pénalité pour son péché a été payée. Et donc, nous avons, c'était dans ce, oui, le verset en Romains 5. Maintenant nous sommes justifiés par son sang. Et nous serons sauvés par lui de la colère. Romains 3, 23, 26. Il a montré sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Et puis 4, 25. Lequel a été livré pour nos offenses, et il a été ressuscité pour notre justification. 3.24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et 26. De montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Pourquoi donc, comment ça se fait que Dieu peut justifier un injuste, parce que nous sommes tous injustes? Et la réponse est parce que la justice divine a été apaisée dans la mort de notre substitut. Voilà tous les versets que nous venons de lire. Le sang de Christ qui a été versé pour nous est devenu le moyen par lequel nous sommes pardonnés. Satan faisait de son mieux de ne pas permettre Jésus de verser son sang. Et Jésus a dit, sur la croix, nous avons vu ça la semaine dernière, quand il a dit, tout est accompli, entre tes mains je remets mon esprit. Parce qu'il a dit, il avait déjà dit, c'est moi qui donne ma vie et c'est moi qui reprends ma vie. Quand le moment arrive, et pas une seconde avant, je donnerai ma vie. Seigneur, ça y est, c'est fini. Tout est accompli. Je te remets mon esprit. En 6 heures, il est mort. Pilote était surpris d'entendre ça. C'était pas normal de revivre encore. trois jours plus tard, le moment arrive, il ne regarde pas son montre, il n'a pas besoin de montre. Le moment arrive, je reprends ma vie. Ça, c'est intéressant que le verset que nous venons de lire en 84, lequel a été livré pour nos offenses, ressuscité pour notre justification. Et tous les sermons dans le livre de Actes, la résurrection de Jésus-Christ est centrale. Parce que le substitut pour notre péché est approuvé par le juge par sa résurrection. L'ampleur de notre péché est vue par le sacrifice qui a été payé pour que nos péchés soient enlevés. Je me demande aujourd'hui combien ici ont vraiment compris que Jésus-Christ est votre salut. Il est votre justification. Il est la culmination de votre raison d'être. Il est intéressant que le prochain verset, je ne vous ai pas laissé ça au début, mais il y avait une cinquième partie du message de Paul. Peut-être, je me demande, je cherche à imaginer le Seigneur. Non, l'apôtre Paul, quand il regarde les Juifs, il y en avait plusieurs, surtout les chefs. Plus qu'ils parlaient, moins qu'ils étaient contents. Et Paul a ressenti cela sans doute. Et il termine son message par dire, voyez, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Vous savez, il est en train de directement, presque mot à mot, citer un verset de Habacuc, chapitre 1, verset 5, où Habacuc était en train de prédire la chute du temple d'Israël. Et Habacuc disait à ce peuple, vous êtes tellement convaincus que Dieu va protéger ce temple, parce que c'était le cas depuis des siècles. Depuis longtemps, même dans le temps des fêtes en Israël, tous les hommes étaient commandés d'aller à Jérusalem avec les garçons et les femmes, pour la plupart, restaient. Et n'importe quel ennemi pourrait venir dans ce temps. Dieu avait promis, ils ne vont pas venir. Je vais vous protéger. Je vais protéger les villes et pendant des années et des années, Dieu avait gardé sa promesse et protégé son peuple. Mais il avait aussi prophétisé, le jour va arriver. Si vous refusez de revenir vers moi, des ennemis vont entrer. Et Habacuc prophétisait ça pour le temple même, le lieu de Dieu, disait-il. C'est pas possible parce que c'est ça la maison de Dieu. Dieu ne peut pas laisser tomber sa propre maison. Le prophète prophétisait, impossible de vous croire. Oui, tu es un homme que je respecte, mais on ne peut pas accepter ça parce que Dieu ne va pas faire. Donc Habacuc dit, ça va arriver, vous, plus que vous pouvez croire, même si on vous la raconte. Et Paul maintenant prend cela pour les Juifs du temps présent. Et moi je veux que nous le prenions du temps présent aussi, en 2012. Nous devrions être étonnés et faire très 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 attention parce que Dieu a promis de faire une œuvre devant nous que nous n'allions pas croire même si on le rencontre. Combien de fois avez-vous fait des choses sachant que c'était un péché? Je me mets dedans aussi, sachant que Dieu n'approuve pas. Et de dire, la grâce abonde. Mon péché est grand, mais moins grand que la grâce. Donc, je vais le faire. Nous avons vu ça hier, mais je voudrais juste vous faire voir cela en Romains chapitre 6, Romains chapitre 5, verset 20 et verset 21. Romains 5, 20 et 21. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Paul venait de dire, Jésus-Christ est venu de faire quelque chose que la loi était incapable de faire. La loi était intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Une merveilleuse vérité. Pourquoi ? Afin que, 21, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Que dirons-nous donc ? Verset 1. Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde ? Ça, c'est un raisonnement logique, charnel, de ceux qui disent « ça m'arrange ». Maintenant, je n'ai plus besoin de me culpabiliser parce que je peux faire n'importe quoi et je n'ai qu'à aller à la confession parce que la grâce de Dieu est plus grande que l'offense de mon péché. Loin de là, horreur de penser comme cela, il a dit, comment nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Vous savez ce que vous faites quand vous parlez comme cela? Vous prouvez, enfin vous démontrez, au moins vous mettez en question votre véritable salut. Ce n'est pas possible pour qu'un chrétien raisonne de cette manière. Inconsciemment, on agit de la sorte parfois. Mais quand on revient à la raison, non, mon péché est grand devant Dieu, si grand que si Christ n'était pas allé jusqu'à la croix de ignominie que nous avons vue la semaine dernière, et enfin être ressuscité, il n'y aura pas d'espoir pour moi. Mais il a fait ça. Il est la fin de la loi. Il est la raison d'être de notre rédemption. Et donc Paul a pu dire, sachez donc, ô mes frères, l'histoire est convergée pour que Jésus meure. Les gens l'ont mis à mort, ils n'ont pas voulu qu'il vive, mais il ne faisait que accomplir le plan de Dieu. Et voilà la bonne nouvelle qu'on vous annonce, c'est que celui qui croit sont déclarés justes. La première fois que Paul emploie le mot justifié dans tous ses écrits, c'est ici, dans ce serment, pour dire Christ est mort pour nous justifier, pas simplement pour nous pardonner. C'est bien d'être pardonné, de se sentir pardonné, mais d'être justifié parce que notre substitut a payé la pénalité et a imputé sa justice aux croyants. Il a imputé nos péchés à lui, pour quand le juge de toute la terre ouvre notre dossier, il voit Samuel lit justifié. Pas de péché. Où ils sont partis? Il ouvre notre dossier. Jésus, condamné. Pas de justice. Plein de péché. Samuel lit est justifié. Pourquoi? Parce qu'il est juste. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun péché. Pourquoi il paye aucun péché? Parce que son péché a été imputé à son substitut. Donc Jésus est pénalement condamné pour des crimes. Il n'est pas juste mort comme un accident. Il n'est pas juste mort comme un exemple pour nous tous. Il n'est pas mort comme un martyr pour une cause qui est tombée dans l'eau, finalement. Non, non, il a été systématiquement jugé devant un tribunal, trouvé coupable des pires des crimes. Le tribunal de Dieu a condamné le Fils de Dieu pour les pires de péchés. est la totalité de la justice divine est tombée sur Jésus-Christ, qui était justifié par rapport à la loi. La loi aurait le déclaré juste. Et tous les autres coupables. Mais celui qui était juste prenait les péchés des injustes, afin que ceux qui croient soient justifiés. C'est pour ça que j'aime la phrase « Jésus-Christ a été justifié par la loi de Moïse juridiquement, afin que nous puissions être justifiés par la foi. » Avez-vous mis votre foi en Jésus-Christ pour recevoir son pardon et pour ressentir « Mon pardon, mon péché n'est pas juste couvert, il est enlevé, jeté dans l'eau, éloigné pour toute l'éternité de moi. » Prions.